Je m'appelle Mathilde, j'ai 29 ans et je suis saisonnière. Si tu m'écoutes maintenant, c'est que soit tu l'es aussi, soit tu te demandes ce que c'est de l'être et ce que ça implique. Alors j'ai bien quelques réponses, mais je ne peux pas être la seule à t'en apporter, tu t'en doutes bien. Donc partons à la rencontre de saisonniers pour en savoir plus. Qu'est-ce que t'en penses ?
Si, si, la saison !
Vous écoutez le premier épisode de Si, si, la saison, le podcast sur la vie des saisonniers. J'ai envie de le considérer un peu comme un pilote d'ailleurs, puisque dans cette ouverture de bal, on va déjà en donner une définition et en donner le contexte d'un point de vue juridique. Quand quelqu'un dit « je fais les saisons », ça implique de travailler déjà. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, travailler en saison ? On va décortiquer tout ça avant tout. Je vais aussi vous raconter des petites anecdotes, parler un peu de mes expériences. Et parmi celles-ci, il y en a une que j'ai partagée avec Malou, ma meilleure amie. On n'a pas fait les mêmes boulots justement. Et elle va vous en raconter des sacrés aussi. Voilà, vous êtes dans Si Si La Saison, un podcast qui met en avant des personnes qui ont adopté ce mode de vie alternatif. Alors commençons par le commencement. Le travail saisonnier se caractérise par l'exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons, récolte, cueillette, entre autres, ou des modes de vie collectifs, par exemple le tourisme. Source, le ministère du Travail. Ce travail, qui concerne des tas de domaines d'activité en plus de l'agriculture et du tourisme, donc la restauration, l'animation, le commerce, l'événementiel, etc., est contractualisé en CDD en général. CDD qui peut d'ailleurs être reconduit, vous avez dans la description de l'épisode le lien pour plus de précisions sur les conditions. Dans cet épisode, on va se focus particulièrement sur la partie tourisme. Pour ma part, j'ai été employée polyvalente en camping et serveuse en saison d'été et personnelle de service en centre de vacances et serveuse aussi l'hiver en station de ski. Cette manière de travailler existe donc grâce aux congés payés qui permettent aux Françaises et Français de partir en vacances pour environ 60% d'entre eux en 2024. Ajoutez à ça les 100 millions de touristes venus du monde entier l'année dernière dans notre beau pays et là vous comprenez en quoi on est utile finalement. Qui va bien pouvoir s'occuper de tous ces vacanciers ? Ben c'est nous, les saisonniers. Alors si t'as la ref, bravo à toi. Sinon, je t'invite à aller voir la caricature du Palmacho sur les internets avec leur son Dansa saisonnier. Être saisonnier, c'est clairement pas échapper aux stéréotypes et c'est une réalité. Quand on est dans le milieu, on le sait que certaines et certains cochent pas mal de cases du bingo. Parmi les clichés évoqués dans cette chanson Dansa saisonnier, il y a le fait que les saisonniers seraient des gens pas très fidèles, un peu volages, très 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 bons vivants, jamais les derniers pour faire la fête, avec tout ce que ça implique, hein, je vous fais pas de dessin. Il y a pas mal de clichés comme ça sur cette espèce finalement. Je consacrerai un épisode sur ça, interroger des personnes sur l'image qu'ils ont des saisonniers. Quels clichés ressortent ? Est-ce que certains sont vrais ? On en reparle très bientôt. Mais là où je voulais en venir, c'est que justement, tous ces clichés montrent une réalité. Être saisonnière ou saisonnier implique quand même d'être dans une sorte de réalité différente du reste de la société. Pourquoi ? Bah, premièrement, la temporalité n'est pas la même. On bosse pour des gens en vacances, on est en vacances pendant que les gens bossent. Évidemment qu'il y a des exceptions, mais globalement, tu finis ta saison, le printemps commence, ou alors il est déjà bien entamé. Pareil pour l'automne, et donc tu te retrouves dans la vie réelle. Les enfants sont à l'école, alors en général, je sais pas vous, mais la période scolaire, ça me sert vraiment de repère temporel, genre, ok, on en est où là dans le calendrier de la société normale ? Et toi, tu redébarques après 4-5 mois, voire plus, hein, de taf intense dans la société, et pour certaines ou certains d'entre vous, bah, vous êtes beaucoup à attendre la saison d'après. Bienvenue dans la période post-saison appelée l'intersaison. Cette période propice au repos, au voyage parfois, retrouvailles avec des proches. Mais quand elle commence, elle peut être un peu douloureuse quand même. Car oui, tu le sais, tu viens de vivre des mois avec une équipe H24, tu viens de vivre une expérience d'une telle intensité humaine, mentale et physique, et là ton contrat se termine avec tout le reste. Alors comment lutter contre la redescente post-saison ? Bah ça sera sûrement le sujet d'un prochain épisode, hein, du coup. Et donc deuxièmement, pourquoi la vie en saison nous met dans une autre réalité, eh bien, la charge de travail est intense sur une période particulière. Alors, je dis pas que c'est pas le cas pour certains corps de métier non concernés par la saisonnalité, hein, évidemment. Mais en tout cas, dans le travail saisonnier, c'est un peu le principe même. Ce qui fait que les heures supplémentaires, elles sont attendues comme elles sont redoutées. C'est quelque chose qui est commun, en fait. Dans notre société capitaliste, le travail et la carrière, plus globalement, régissent notre quotidien et notre vie. Être saisonnier, c'est accepter de jouer à ce jeu-là, mais dans un mode un peu différent quand même. C'est-à-dire qu'on est prêt à le faire intensément sur une période. Et comme dans tout jeu, justement, bah, y a parfois et malheureusement des tricheurs. Et oui, je parle des patrons peu scrupuleux qui, sous couvert de notre statut particulier, qui d'ailleurs n'est pas reconnu partout, hein, alternatifs au schéma classique du travail, peuvent se permettre parfois bien des abus. Toute la journée, tu devras aussi beaucoup travailler. Servir des clients pressés est pas toujours très poli. Ma foi, il fallait comprendre, il sent là pour se relaxer et passer une semaine de vacances de rêve en famille. Dans la rue, dans les bars, dans les cadres, dans les petits coups, dans les après-ski. Tu verras du pognon couler à flot comme par magie. Et pour faire en sorte que ce joli rêve se prolonge, tu ne compteras jamais tes heures de plonge. Ce que tu viens d'entendre, man, c'est une chanson parodique du collectif suisse Brada Framanada Mada. Et le titre de la chanson, c'est Kilimanjaro. Connu dans l'émission 52 minutes de la chaîne suisse RTS. C'est un peu le palmachot helvète finalement. Tu ne compteras pas tes heures de plonge. Alors si, et il vaut mieux le faire d'ailleurs. Si dans ton taf il n'y a pas de système de pointage, note tes heures de ton côté, c'est vraiment trop important. Petit rappel sur la loi du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine. Elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Par exception, cette durée peut être portée à 46 heures. Alors j'en entends déjà rigoler dans le fond. Hein. Vous êtes nombreux et nombreux à avoir eu des employeurs qui ne connaissaient pas cette règle, hein, évidemment. Et donc vous en avez sûrement peut-être aussi fait les frais. Figurez-vous qu'une étude a été publiée en mai 2024 sur la sécurisation des parcours professionnels des saisonniers et des saisonnières dans l'agriculture, l'hôtellerie-restauration et les remontées mécaniques. C'est l'Institut de recherche d'économie sociale, en collaboration avec le Laboratoire d'économie et sociologie du travail, qui l'a sorti. Et dedans, il en ressort que les saisonniers ne sont en général pas assez renseignés sur leurs droits en ce qui concerne les conditions de travail, de salaire et de logement notamment. Et ben ça, ça fera l'objet d'un autre épisode, voilà. Coïncidence ? Je ne pense pas. Pourquoi on fait les saisons ? Pouvoir bosser dans des cadres cool, avoir peut-être plus de temps hors boulot, pour vivre intensément aussi. Sauf que du coup, ces choix-là, on peut se dire « Ouais, c'est bon, ça va être galère quelques mois seulement, pour ce que ça apporte, ça va, c'est pas trop grave ». On a beau être dans le même bateau, on n'a quand même pas toutes et tous la même tolérance non plus. Pour être honnête avec vous, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce podcast. Je voudrais qu'il serve un peu à décrypter ce mode de vie, à l'étudier même, pourquoi pas. Et j'ai envie qu'il s'inscrive dans la lutte pour la reconnaissance aussi de ce mode de vie. Force ouvrière, le syndicat, a participé au relais de la fameuse étude dont je vous parlais juste avant. Et voilà ce qu'ils écrivent dans un article du 20 juin 2024. Donc je cite, « Souvent stigmatisé et mal connu, mal dénombré par la statistique publique, voire invisibilisé, les saisonniers et saisonnières sont peu l'objet de l'attention des pouvoirs publics malgré des problématiques récurrentes de logement et de conditions de travail. Cette réalité me dépasse hein, et m'insurge complètement. J'imagine, et j'espère que vous aussi d'ailleurs, parce que je pense que on est quand même plusieurs à avoir vécu des situations quand même assez rocambolesques hein, en termes de loi du travail. Hein. » Alors venez, je sais pas, on essaye de changer la donne, non ? Je vous rencontre, on parle de tout ça, et on montre à tout le monde que notre réalité de saisonnier, ben, c'est aussi quand même un peu la vraie. Hein. Sissi la saison, le podcast des saisonnières et saisonniers, c'est donc la parole à des personnes qui ont choisi ce mode de vie. Pas forcément de manière figée, hein. On le sait que la vie apporte son lot d'opportunités et de surprises. Parmi nous, on est plusieurs à l'être par période aussi. Ça tombe bien, c'est le cas de Malou. On se connaît depuis 11 ans maintenant, c'est ma meilleure amie. Mais c'est aussi une saisonnière. Son dernier travail saisonnier, c'était cet hiver en tant qu'éducatrice dans une école suisse. Elle s'occupait d'élèves qui venaient du monde entier dans les moments de vie quotidienne et les accompagnait dans leur temps extrascolaire, au ski par exemple. Mais avant qu'elle nous raconte tout ça, c'est quoi les bails pour elle actuellement ?
Hey yo meuf, en direct au Brésil ! Je suis au Nomads Hostel à Salvador de Bahia. Je vis ma best life clairement parce que je suis en road trip depuis le 5 mars. J'ai tellement de chance, tellement de chance.
Malou est saisonnière, ascendant backpackeuse, hein. Ça va plutôt bien ensemble hein, finalement. Je lui ai demandé de nous raconter sa première saison, qu'est-ce qui l'a plongée dans ce monde-là, et elle a commencé dans l'animation.
Moi, en fait, j'ai commencé, j'avais 18 ans, j'ai commencé par une colo en tant qu'animatrice dans un centre de vacances. J'avais en charge des enfants de foyer, j'étais pas du tout formée, c'était la galère totale, vraiment. Et après, en fait, grâce à cette expérience, j'ai pu enchaîner sur plein d'autres saisons. Sans passer le BAFA, j'ai fait du camping. Beaucoup de camping en fait, parce qu'ils ne demandent pas le BAFA forcément. Il faut le savoir, si vous avez un peu d'expérience avec les enfants. Moi j'avais fait jeune fille au pair quand j'avais 17 ans à Palma de Mallorca. Du coup ça m'a permis de faire valoir mon expérience avec les enfants. Et puis ensuite, camping, je suis partie, il me semble, de fin juin à fin août. À Valras, dans un camping. Un camping assez classique, des bungalows à la chaîne. En vrai, pas le camping qui me fait kiffer, mais bon, c'était une bonne première expérience. Moi, il me fallait vraiment des gens formés qui m'expliquent comment ça se passe, parce que le camping, c'est tellement particulier. Les gens qui sont là sont en attente de malades d'animation. Ils passent leur vie au camping, surtout dans le sud de la France. Donc, c'est pas du tout la même vibe que sur la côte atlantique. Et là, il fallait taper fort niveau choré, niveau mascotte. Et ils m'ont tout appris. C'était chouette. Je vivais en coloc avec une fille qui s'appelle Marie. Restais en contact après. Franchement, on était dans un bungalow, dans une zone un peu technique. On n'était pas nourris, on était seulement logés par contre. Mais c'était cool. Franchement, très bonne ambiance. On était 6 animateurs. Et on taffait donc toute la journée avec les enfants. Et le soir, on faisait les soirées. Donc t'avais Zumba fluo, t'avais du karaoké, t'avais des spectacles. On a monté un spectacle, donc on répétait après nos journées de taf le soir. Ça c'était assez compliqué, mais il y avait tellement une bonne ambiance et une bonne alchimie entre l'équipe que franchement ça passait crème.
Sacrée première expérience, hein. Mais alors c'est quoi les avantages de travailler en animation dans un camping?
Après tu rencontres des gens de fou, vraiment c'est trop stylé parce que t'as l'impression de pas taffer. En fait c'est difficile, tu taffes. Physiquement, c'est dur, mais t'as l'impression de pas taffer parce que t'es dans un lieu touristique, un lieu joli. Tu peux profiter des équipements du camping, du sauna, du hammam, de la piscine. Quand t'es off, tu peux aller au resto, t'as des prix. Tu connais tout le monde, donc forcément au bar, ça rince, etc. Donc voilà, ça c'était chouette.
Malou a fait sa première expérience dans un camping 4 étoiles, donc avec une demande forte en animation et divertissement. Pour ma part, ma première saison, c'était fin juin 2023. J'avais 27 ans, donc c'est assez récent. J'étais employée polyvalente et j'ai adoré. J'ai fait tous les postes quasiment. Serveuse, barmaid, animatrice enfant, personnel de service. Donc nettoyage des mobilhomes et des quelques gîtes le samedi lors des arrivées et des départs. Je fais vendeuse aussi dans l'épicerie, ça c'était rigolo. Camping vraiment pas grand, hyper familial. Pas de piscine, pas beaucoup d'équipement. Dans une bourgade tranquille du Finistère Sud, à 200 mètres de l'océan. L'ambiance était super sympa. Le couple de patrons qui m'a accueilli était adorable. Les collègues pareil, pas une grande équipe, mais voilà, à taille humaine. Et c'était génial pour commencer dans le milieu. Donc après chacune... Forcément, après ça, on se dit, mais testons la saison d'hiver, non? Qu'on rigole un peu. Automne 2023, donc cette saison se termine. On est dans l'intersaison. Je cherche une saison d'hiver, ma première. Malou me dit, moi cet hiver, je pars à Valoir, gros. Alors on vient de Champagne-Ardenne, Lorraine. Donc le terme gros, c'est un peu une onomatopée pour nous, hein. Ok, bah vas-y, je te rejoins en fait. Décembre 2023, nous voilà toutes les deux dans cette station à taille très humaine, hein, c'est rien de le dire, c'est très familial, très petit. Je me retrouve personnel de service dans un centre de vacances à nettoyer les chambres pour les colos, les classes de neige et les autres groupes, à faire la plonge aussi, nettoyage des salles communes, la lingerie. Et Malou, elle travaille à l'office de tourisme de la station.
C'était trop bien parce qu'on faisait la fête tout le temps, il y avait une trop bonne ambiance. L'ambiance à l'office, elle était cool après à l'animation moyen, mais ouais, j'ai bien aimé parce qu'en fait, c'était hyper varié. On faisait des descentes au flambeau, on a fait des soirées DJ, on a fait des ateliers bougies, des... plein de trucs en vrai. Donc ça, c'était cool et ça, c'était le best logement ever. Genre, j'avais une bulle à moi, j'avais mon studio, mon espace personnel. Pour rien, genre, je payais rien.
Faut savoir que cette bulle m'a permis aussi de m'aérer de la promiscuité de mon boulot. C'était un plaisir de venir squatter chez elle de temps en temps, hein. Au centre de vacances, bah, je dormais dans une chambre avec un lit et un lavabo. Tout était commun, les repas, même pendant les repos, devaient être partagés. Soit tu mangeais avec tes collègues, soit tu ne mangeais pas, hein, ou alors à l'extérieur, à tes frais. On peut dire que j'ai pas bien vécu ce boulot-là. Non seulement en termes de tâches plus qu'ingrates, mais aussi parce que rien ne vaut un espace à soi. Enfin, la promiscuité, surtout à cet âge-là, ça m'avait quand même mis un petit coup, hein. Je pense que plus jeune, c'est un peu moins gênant, mais je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà. Alors, je remercie la vie d'avoir vécu cette expérience justement en présence de ma meilleure amie, qui, vous allez l'entendre, n'a pas été épargnée non plus.
C'était trop bien, mais c'était la plus difficile dans le sens où, franchement, au niveau... comment dire, technique, logistique, j'en ai chié. J'ai vraiment galéré parce que tous les jours, sur chaque événement, il fallait installer, désinstaller, installer les sonos, installer les oriflammes, installer les enrouleurs, etc. L'électricité, le son, la lumière, et moi j'y connais rien. Et quand t'es sous la neige, qui fait moins 10 dehors et qu'il faut tout installer, tout désinstaller en pleine nuit et tout, il y avait un gros événement qui s'appelle les sculptures sur glace. On t'a fait jusqu'à des 3-4 heures avec les sculpteurs la nuit, il faisait trop froid. C'était horrible. Donc ça, c'était très dur mentalement, très très dur. Mais j'avais ma meilleure pote avec moi et elle m'a soutenue. Tu m'as soutenue, gros. Truc de fou. Merci.
On a encore tellement d'anecdotes à raconter, je me dis en vrai que ça peut se faire dans un prochain épisode, de toute façon. On en a vu des sacrés toutes les deux à Valoir. Oh, des rires, des larmes, des rencontres. Merci à Malou Biodé pour sa participation à ce pilote. Merci à la SCOL dans laquelle j'ai étudié le métier d'animatrice radio, qui m'a formée à l'écriture radiophonique et qui m'a permis d'être le tremplin à la réalisation de ce projet de podcast. Et merci à vous pour votre attention et peut-être pour votre future participation. Je suis Mathilde et je veux donner la parole aux saisonnières et saisonniers. C'est pourquoi vous venez d'écouter Sissi la saison. Et comme dit Malou,
à suite au prochain épisode. Ciao, tout au bien.
Sissi la saison. Yeah.